Salut, bienvenue sur Be My Fetish, le podcast qui s'intéresse aux paraphilies, c'est-à-dire à différentes pratiques sexuelles dites entre guillemets inhabituelles ou entre guillemets non classiques. Ici, on va explorer les pratiques sexuelles alternatives, comme les kinks, le fétichisme, le BDSM, afin que le fait d'en parler et de le réaliser ne soit plus ni une honte, ni un tabou, et de déconstruire les stéréotypes. Avertissement. Cet épisode s'intéresse à des situations de contrainte et d'entravement des mouvements avec des cordes. Dans la deuxième partie de cet épisode, Nilui nous parlera de son rapport au shibari, de la relation avec son partenaire principal à travers cette pratique. Elle évoquera aussi les jams qu'elle a mis en place avec lui. Nilui donnera aussi de précieux conseils pour les personnes qui souhaitent découvrir cette pratique. Bonne écoute! Et du coup, aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta pratique du shibari?
Eh bien, dans ma pratique du shibari, j'en suis au moment où je dois apprendre à ne pas pratiquer, même si j'en ai très envie.
D'accord.
Parce que j'ai eu une espèce de rupture dans ma pratique qui s'est produite pendant ma grossesse. C'est-à-dire que j'ai continué à pratiquer le shibari pendant que j'étais enceinte. Mmh. Et puis, depuis mon accouchement, alors ça peut venir de deux choses. Il y a peut-être le fait que j'avais mis une énorme symbolique dans mon accouchement et j'ai beaucoup dit que cet accouchement serait un peu mon ultime séance de shibari. Mais je le voyais, quand je disais ultime, je ne considérais pas dernière, c'est-à-dire que je considérais que ça avait une espèce d'aboutissement de la douleur utile et constructive et de l'émotion forte, etc.
Dans le sens où tu faisais un parallèle entre la douleur que tu pouvais ressentir au moment de l'accouchement et la douleur que tu peux ressentir pendant une séance de shibari.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté de douleur choisie, de douleur joyeuse, de moments joyeux, de moments relationnels forts, etc. Et que oui, j'avais construit une petite symbolique autour de ça. Mais c'est vrai, quand je disais ultime, je considérais un truc un peu plutôt d'apogée plutôt que de fin des choses. Mais visiblement, mon inconscient a compris complètement autre chose. Donc voilà, lui, il s'est dit « Ah ok, c'est fini. » Donc, c'est compliqué pour moi de pratiquer. Et je pense que la deuxième chose, c'est que une de mes partenaires avec qui on... Enfin voilà, une des partenaires qui était la plus importante de ma vie dans les cordes, qui m'attachait. Est parti et a arrêté de pratiquer les cordes, et je pense que ça a été une grosse rupture pour moi. Donc j'ai toujours une immense envie de faire des cordes, j'ai toujours une immense envie de faire du shibari, mais je vois bien que dans la réalisation c'est toujours beaucoup plus compliqué, j'ai beaucoup moins, je suis plus dans l'évidence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pour moi a longtemps été de l'évidence, me faire attacher. Et c'est beaucoup moins évident pour moi, c'est-à-dire que j'ai plus le lâcher prise. Le fameux lâcher prise, je suis dans un truc de surcontrôle. Enfin voilà, je n'accède plus à tout ce que je décrivais tout à l'heure là, tous ces trucs incroyables qu'on peut vivre.
D'accord.
Je n'y accède plus. Il y a autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Il y a physiquement et certainement psychologiquement quelque chose qui n'est pas encore prêt. Et du coup, il m'arrive de. Enfin, je pratique encore. Je vois bien que j'ai une pratique qui a changé, qui est beaucoup moins acrobatique, beaucoup moins spectaculaire, beaucoup moins... Voilà.
Et en même temps... Est-ce que c'est toujours... Il y a cet aspect visuel, excuse-moi de te couper, mais du coup, est-ce qu'en termes de ressenti... Alors, on sait que d'une séance à l'autre, les ressentis, les sensations physiques vont être différentes, mais est-ce que là, tu notes une vraie différence? Est-ce que c'est moins jouissif, moins épanouissant pour toi ou au contraire c'est la même chose
non,
qu'avant?
Non, c'est-à-dire que on va dire que c'est moins systématiquement jouissif et épanouissant. Mm-hmm. Alors jouissif, je parle dans le sens de très grande joie.
Ouais.
C'est moins systématiquement. Il arrive encore que ce le soit, mais je suis obligée d'admettre que je vis quand même plus souvent des moments de lutte contre moi-même et contre les cordes que des moments d'osmose avec tout ça.
D'accord, donc, ce qui n'était pas le cas avant.
Ce qui n'était absolument pas le cas avant, ce qui n'a pas été le cas du tout pendant ma grossesse non plus, ça a toujours été encore une fois quelque chose de très fluide pour moi.
D'accord.
Et ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais comme je le disais au début, cette pratique est une addiction et je vois bien que je n'arrive pas à m'en défaire. Et moi, je suis confrontée à ce truc contre lequel je mets en garde, c'est-à-dire que je suis... Je continue parfois d'aller chercher ma dose, même si je sais que c'est pas le bon moment. Alors, je mets en place des choses qui font que je me mets pas en danger par rapport à tout ça. Mais, euh, Mais voilà, je me débarrasse pas de ce truc, c'est une pratique que j'arrive pas à abandonner, aussi parce que j'ai quand même parfois de très bons moments encore dedans, quand je pratique. Mais voilà, c'est devenu beaucoup moins évident pour moi, c'est devenu plus douloureux, plus... voilà, donc ça va, j'ai un partenaire en qui j'ai une confiance absolue et avec qui il est pas compliqué de dialoguer et d'arrêter une séance en cours de route ou de pouvoir se faire des retours négatifs après une séance quand j'ai mal vécu ou quand lui l'a mal vécu, ou voilà.
D'accord. Bah justement, ça tombe bien que tu parles de ton partenaire, parce que c'est une question que j'allais te poser, donc savoir si tu avais construit une relation en continuant à vivre cette passion, cet amour, cet attrait pour le shibari. Et donc, est-ce que cette personne connaissait déjà ton intérêt pour le shibari quand vous vous êtes rencontrés, ou pas du tout? À quel moment est-ce que c'est venu dans votre relation?
Alors en fait, mon actuel partenaire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un site de rencontre. Donc peut-être je faisais une allusion aux cordes sur mon profil à l'époque, mais il n'y avait pas un truc très clair, etc. Quand on s'est rencontrés, très rapidement j'en ai parlé parce que c'était quand même quelque chose qui était très important dans ma vie. Ma précédente relation était quasiment exclusivement basée sur les cordes. Mmh. Donc ça avait pris quand même beaucoup de place, même si je connaissais l'écueil du fait que ça avait pris beaucoup de place. Mais en tout cas, voilà, je ne me voyais pas, cette personne que je rencontrais tout juste me plaisait et que pour lui parler de moi, ça me paraissait compliqué de ne pas évoquer du tout le shibari. Mmh. Donc j'en ai parlé assez rapidement, il ne connaissait pas cette pratique-là, mais il a été positivement curieux assez vite, on va dire. Je lui ai montré des photos, après notre rencontre, j'ai refait des cordes, et puis je lui ai envoyé des photos quasiment en direct, et il était plutôt... voilà. Et donc c'est moi un jour qui lui ai proposé, je lui ai dit est-ce que tu as envie d'essayer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut te brancher? Sachant qu'encore une fois, moi pour le coup ça faisait quelques années que je pratiquais quasiment qu'avec des gens, j'aime pas ce terme, mais de haut niveau, quasiment que des gens pour qui c'était le métier en fait, mm-hmm. qui avaient une pratique quasi quotidienne de ça. Donc je lui ai demandé s'il avait envie d'essayer, il en avait envie, donc j'avais une corde chez moi que je lui ai confiée, je lui ai juste montré le nœud de base, comment... Pour ceux qui connaissent le single column tie.
D'accord.
Voilà, c'est ce truc qui permet de choper au moins un membre. Je lui ai juste montré ça et je lui ai dit, voilà, maintenant, quand il y a une corde et moi, qu'est-ce qui se passe pour toi, en fait? Mm-hmm. Et j'aimais bien ce qui se passait pour lui, en fait. Et lui aussi, il aimait bien. Enfin, on a joué pendant quasiment un mois avec une seule corde. Mm-hmm. Et puis, je l'ai vraiment observé, lui... s'amuser, développer son côté ludique, développer son écoute de mon corps, enfin développer vraiment tout ce que moi je considère fondamental, sa confiance en lui, sa confiance en moi, etc. Mm-hmm. Et puis à un moment, je lui ai dit, est-ce que tu as envie qu'on commande un vrai jeu de cordes avec plusieurs cordes? Et voilà, il en a eu envie, on l'a fait. Et puis on a continué de pratiquer comme ça, et puis au bout d'un moment, on a fini par aller faire quelques cours pour les moments où il commençait à avoir des blocages techniques sur des choses qu'il voulait faire et qu'il ne savait pas comment faire. Mais voilà, j'aime à dire qu'il est ma créature, que cet homme est l'attacheur que j'ai créé à mon image, c'était celui qu'il me fallait. Et il faut être clair, cette créature m'est échappée.
L'élève a surpassé le maître.
Exactement, pour mon bonheur et pour son bonheur, voilà, c'est quelqu'un qui du coup s'est mis à pratiquer avec beaucoup d'autres partenaires et puis qui a développé vraiment lui sa manière de pratiquer les cordes que j'aime beaucoup, qui n'est pas la plus facile à vivre pour moi parce que il a peut-être un petit truc gentiment sadique et comme je suis pas particulièrement masochiste, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à aller dans le lâcher prise en ce moment. Mm-hmm. C'est que peut-être qu'on n'est pas raccord sur nos pratiques en ce moment.
D'accord.
Mais par contre. Je suis assez heureuse de me dire qu'il n'avait jamais touché une corde de sa vie et qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup dans cette pratique et qui est très apprécié de ses partenaires
qui prend du plaisir et qui en donne
qui est très respectueux avec tout ça et qui a vraiment développé un truc très singulier en fait dans sa pratique de corde. Et moi je trouve ça très chouette. Donc oui, il y a eu cette relation qui a commencé alors qu'il n'avait jamais entendu parler des cordes et qui c'est une relation qui s'est construite et qui a grandi avec les cordes en fait.
D'accord. Pour toi, du coup, aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça n'a pas forcément été le cas avant, mais aujourd'hui, est-ce que ta pratique donc du shibari est plutôt érotisée, sexualisée, sensuelle ou non? Et pourquoi, selon toi?
Alors, moi, j'ai jamais érotisé cette pratique. Alors, je parle de manière globale. Pardon. Je parle vraiment de manière globale. J'ai jamais considéré que c'était une pratique érotique pour moi, ce qui ne veut pas dire que j'ai jamais eu de moment érotique en
Comme
faisant du
tu l'évoquais
shibari.
tout à l'heure avec le mec qui à la base t'avait dit non, il y aura pas de tout ça, et que
Exactement.
tu sentais et que lui effectivement t'a confié qu'il y avait cette envie et cette tension pendant votre
Voilà,
séance.
et que voilà pour quelque chose qu'on n'a pas concrétisé, mais là, il y avait une tension érotique. Il n'y a pas eu de jeu érotique, mais il y a eu une tension érotique qu'on n'a pas volontairement posée, mais en tout cas, voilà. Donc, il arrive effectivement que parfois une séance soit un peu plus érotisante que je ne le pensais, ou que mon partenaire le pensait, ou voilà. Mais c'est vrai que c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose que j'érotise. Par contre, je n'oublie jamais qu'il y a une dimension érotique. C'est-à-dire que je n'oublie jamais que c'est là et que par contre, je sais que c'est une pratique très sensuelle. Et sensuelle presque au sens premier du terme. Ça mobilise les sens, quoi. Ça mobilise le toucher, ça mobilise l'odorat, ça peut mobiliser la vue. Il y a vraiment une espèce d'hypersensibilité sensorielle, enfin vraiment, ça éveille tout ça. Donc en ça, je considère que c'est très sensuel, je considère que c'est très charnel aussi, dans le sens où il y a un rapport de contact, de peau à peau, de corps à corps, qui est quand même, en tout cas dans la pratique telle que je l'aime, parce que j'ai vu des gens, hein, qui pratiquent un mètre de leur partenaire, etc. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire quand je fais des cordes, donc j'aime la dimension quand même charnelle, sensuelle. Je les admets et je les accepte et je les aime. Voilà, après la dimension érotique, je sais qu'elle est là, mais c'est pas quelque chose que je recherche. Et moi, quand je me fais attacher, je le vis pas de manière érotique. Et pour le coup, j'ai jamais, quand bien même sur cette séance dont on a parlé, où il y avait une tension érotique, moi, ça m'a jamais procuré de plaisir, par exemple, de plaisir au sens sexuel. Voilà. Je me suis jamais dit que je pourrais en jouir, ou j'ai même jamais mouillé dans les cordes, de façon claire. Alors que,
Avoir un rapport, un acte sexuel, quelle qu'en soit la
encore,
forme.
voilà. Alors, il m'est arrivé parfois d'avoir des actes sexuels dans les cordes. Et pour le coup, bizarrement, pour moi, ça devenait plus une séance de cordes, ça devenait une partie de cul. Pour moi, c'est plus une partie de cul dans laquelle il y a des cordes, mais c'est rare, c'est pas une séance de cordes sexualisée, en fait. Mais c'est très subjectif, hein, je pense, c'est vraiment mon point de vue, mais oui, parce que pour moi, les cordes sont pas du tout pour moi un moyen d'accéder au plaisir sexuel. Par contre, ça peut être un accessoire de jeu qui fait que, ben voilà, si, ça, comme plein de gens, ça peut être chouette d'avoir un rapport sexuel en étant un peu immobilisé et voilà, avec un partenaire avec qui c'est cool de jouer comme ça. Voilà.
Et du coup, quel est ton rapport en fait à ta sexualité, ton rapport au plaisir sexuel?
La grande question. Alors, je suis très copine, comme je disais, je suis devenue copine avec mon corps et je suis devenue aussi très très copine avec ma sexualité. J'ai un rapport à ma sexualité qui a évolué. On va commencer par l'enfance.
Tout
Mais
commence à ce
tout commence toujours
moment-là.
par l'enfance. Mais pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai, en fait, depuis que je suis gamine, hein, j'ai un rapport à la sexualité qui existe, à savoir que j'ai été élevée dans une famille où le sexe et la sexualité n'ont jamais été tabous. Je savais que mes parents avaient une sexualité. Enfin, voilà, je le savais. Il m'arrivait de les entendre quand ils s'éclataient. Et c'était pas un truc qu'on n'avait pas le droit d'évoquer ou quoi que ce soit. Enfin, mes parents se désiraient et s'aimaient. Et du coup, pour moi, ça a toujours été un truc qui faisait partie de l'existence des gens. De voilà, la sexualité existe et ça a l'air plutôt cool en plus parce que mes parents, ils avaient l'air quand même de plutôt dire que c'était un truc un peu sympa.
D'être épanoui, etc. Et
Et
donc, a
voilà.
priori, c'est pas parce qu'on parle librement de sexualité, même avec un enfant, quel que soit son âge,
que voilà, ça pose souci, etc. etc. qu'on le vivrait mal en fait.
C'est clair. Après, tu l'as très bien vécu. Il nous expliquait pas le truc par le menu. Bien sûr. C'était pas du tout. C'est juste que on savait que. Alors, je pense que quand j'étais toute petite, je savais qu'il y avait un truc intime, et puis que en grandissant, j'ai compris que ça s'appelait le sexe, et puis que certainement c'était pénis dans vagin pour mes parents, et voilà. Mais en tout cas, je savais que ça existait et que ça faisait partie des trucs chouettes de la vie d'adulte.
C'était pas tabou, en fait.
Non, c'était pas
quelque chose de diabolisé, de sale, etc.
Non, non. Et si moi, je posais des questions, les seuls moments où éventuellement on n'y répondait pas, c'était quand on me disait, ça, pour le coup, c'est notre intimité, ça te regarde pas. Par contre, si je posais des questions générales, j'ai jamais eu de fin de non-recevoir. Je dirais même que ma mère, très rapidement, m'a donné ce conseil en me disant, est-ce que je peux te conseiller de ne jamais... Surtout, tu n'épouses pas la personne qui te dépucelle. Il faut que tu connaisses plusieurs personnes parce que c'est toujours très sympa, voilà. Et donc il y a plein de manières de faire, donc vraiment ne t'arrête pas au premier. Donc voilà, il y avait quand même quelque chose d'assez décomplexé par rapport à ça. Et encore une fois, ça veut pas dire, enfin voilà, j'ai jamais vu mes parents, ils m'ont jamais rien imposé, c'est juste que ça faisait partie de la vie d'adulte et que nous on était des enfants et qu'on savait que c'est un truc qui nous arriverait plus tard. Je me suis masturbée très très jeune. Consciemment, c'est-à-dire que je savais ce que j'étais en train de faire, savais que j'étais en train de me donner du plaisir, il n'y avait aucun problème, et je savais que j'allais être toute seule dans ma vie pour ça, et c'était plutôt cool, et j'avais quand même hyper envie de grandir pour pouvoir le partager avec quelqu'un, et du coup j'ai eu ma première expérience, pas non plus hyper tôt, mais je sais pas, je devais avoir 15 ans et demi, bref, j'ai eu une entrée dans la sexualité assez classique et moi j'avais envie d'une sexualité très délurée en fait. J'avais envie d'essayer plein de trucs. Et puis quand j'ai eu 20 ans, je me suis mise avec quelqu'un avec qui je suis restée pendant 9 ans et demi. Et il se trouve que dans notre dynamique à nous deux, il n'y avait pas un truc follement créatif dans le cul en fait. Et que c'était. On avait une sexualité qui n'était pas désagréable, mais qui était assez plan-plan quand même. Et puis il avait quelques. Enfin, moi, il y avait des trucs dont j'avais envie, un peu plus aventureux, pas des trucs complètement fous, hein, mais juste des fois, genre faire l'amour en forêt, ou des trucs
d'accord,
comme ça. C'est des trucs qui me faisaient
un peu les choses.
Voilà, c'est des trucs qui me faisaient envie, et lui, il était très. Non, il y a des brindilles, il y a des bêtes, il y a des insectes, machin. Donc, bon. Et donc, quand on s'est séparés, j'étais un peu. En plus, j'ai eu une espèce de prise de conscience, j'avais presque 30 ans, et je me suis dit, oh mon Dieu, mais. Quand tu étais petite, tu te disais en fait que tu serais très très libérée sexuellement. Et puis je me disais, mais en fait, là, ça fait 9 ans et demi que tu baises avec la même personne. Et je me disais, mais est-ce que. Voilà, c'est chaud, c'est pas du tout ce que je voulais et c'est pas comme ça que. Voilà. Et en même temps, je suis quelqu'un de. Ça, je sais pas si ça s'entend. Voilà, je suis quelqu'un de très timide et j'ai beaucoup de difficultés à la séduction. J'ai pas un rapport à la séduction très, très simple en fait. Je suis pas quelqu'un qui drague, je suis pas quelqu'un qui sollicite. Et je me fais pas particulièrement draguer non plus, enfin voilà, je suis pas une séductrice. Donc c'était un peu genre, ouais ok, je veux bien avoir une sexualité libérée, mais comment on fait en fait? Concrètement, c'est super, mais comment je fais? Et tout le monde me dit, mais si, tu sais, quand on est une meuf, les mecs, on les chope comme ça. Et je dis, moi, visiblement, je les chope pas comme ça du tout en fait. Et puis, je suis arrivée sur les sites de rencontres parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de séduire pour moi à l'écrit.
D'accord.
Et que du coup, voilà, c'était très bien. Et là, j'ai commencé à partir dans un truc où j'ai eu une vie sexuelle vraiment très riche, en tout cas en termes de nombre de partenaires. Et du coup, de ressenti, enfin d'échanges émotionnels. Mais c'était toujours pas. J'étais toujours pas dans un truc complètement foufou. Mais bref, en tout cas, ça m'a permis de me libérer, de me désinhiber beaucoup. Et puis, je dirais que la suite de ça, ça a été un peu une espèce de suite logique. C'est-à-dire que. Le shibari est arrivé et que socialement ça m'a fait accéder à d'autres sexualités. Donc là j'ai découvert le BDSM dont j'avais vaguement entendu parler un peu. Enfin voilà, pour moi c'était cuir moustache et basta. J'en avais pas d'idée beaucoup plus. Enfin voilà, j'étais pété tous les préjugés que beaucoup de gens ont. Et puis j'ai découvert en fait le fond du BDSM, de quoi ça parlait. Enfin voilà, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la violence du BDSM, en fait, c'était plutôt la violence du désir. Et ça, pour le coup, ça m'intéressait beaucoup aussi, ce moment où comment on manifeste un désir complètement fou dans le respect de tout le monde, etc. J'ai pas développé une sexualité très BDSM. Par contre, on va dire que ça a plutôt nourri ma pensée et mon imaginaire. Et que le BDSM, c'est ma vie sociale, en tout cas, autour de moi, quasiment, enfin, je sais pas, les trois quarts de mes potes ont une sexualité plutôt très kinky, très fétiche, très SM, etc. Moi, pas du tout. Moi, en fait, tout ça m'a juste conforté dans ce truc de presque de petite fille, hein, je reviens à ça, hein, je boucle la boucle, du fait que ben, moi, je suis une ultra-vanille, en fait. Je suis une ultra-vanille et que moi... Moi, mon vrai grand plaisir sexuel, c'est moi et une seule autre personne. Alors, en l'occurrence, je suis hétéro, donc c'est un mec. Et c'est de la sensualité, c'est de la douceur, c'est ce truc dans les films, mais avec la réalité et l'orgasme en plus, quoi.
Ouais.
Et c'est vraiment ça, voilà. Ma sexualité plaisir, elle est vraiment extrêmement vanille. Après... Il y a une autre partie de ma sexualité qui est moins liée à mon plaisir sexuel, mais qui est encore une fois très liée à ma vie sociale et plutôt à un truc d'amusement en fait, de fun, de partage, et qui va être, oui, je peux aller dans des soirées SM, je peux aller dans des soirées libertines, dans des clubs, dans des trucs comme ça, un peu moins club parce que c'est pas mes endroits préférés, mais ça m'arrive d'y aller. Et je peux me prêter au jeu de plein de trucs. Je sais que, encore une fois, ça va pas m'exciter, ça va pas m'emmener vers l'orgasme, ça va pas m'emmener vers un plaisir sexuel. Par contre, j'ai un vrai plaisir social de partager des trucs avec les gens et ça fait partie de ma sexualité, en fait, clairement.
Oui.
Voilà, juste de partager ces trucs-là avec des potes. Voilà, donc j'ai un rapport non, assez décomplexé à ma sexualité qui est vraiment... pour moi, à la fois un moyen d'avoir du plaisir, un moyen de nouer des relations avec des gens, un moyen de nourrir des relations avec des gens. Et un moyen de plein d'autres choses dans ma vie.
Et en plus, du coup, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, par exemple, toi, le shibari, c'est quelque chose qui fait vraiment... qui occupe une grande place dans ta vie. Et pour autant, malgré tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir, en fait, au final, tu as une sexualité qui est très vanille. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ça. Hein. C'est juste justement pour... Je trouve déconstruire les stéréotypes qu'on peut avoir là-dessus et d'éviter en fait de faire des généralités et de dire bah voilà en fait je peux pratiquer le shibari, je peux aussi avoir des pratiques SM mais qui ne sont absolument pas sexuelles en fait et avoir une sexualité plus classique donc comme tu dis vanille et aussi je peux faire les deux dans un cadre plus social et aussi pratiquer le SM et en même temps avoir des rapports sexuels etc etc genre. Tout est possible,
ouais.
Et on en discutait donc juste avant qu'on commence. En fait, il existe autant de manières de pratiquer que de personnes qui les pratiquent.
Exactement.
Les limites ou les envies qu'on a et qu'on se met, en fait.
C'est
infini.
C'est complètement infini, et je pense que la clé pour bien vivre tout ça, en fait, c'est de pouvoir se mettre à l'aise et d'être bien entouré avec tout ça. Et c'est vrai que ce côté... mon hobby préféré, c'est le shibari. Et en même temps, je suis complètement vanille. Alors, merci de m'aider à déconstruire ce cliché de si on fait du shibari, c'est qu'on est kinky. Dans sa sexualité, en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est qu'on trouve son plaisir dans le, dans le masochisme. Parce que moi, j'ai quand même un paquet de potes qui pendant des années, quand je disais, mais moi, je suis complètement vanille. J'ai provoqué des éclats de rire de fou autour de moi. Les gens me disaient, mais enfin, t'es complètement maso, on le sait bien. Je disais, mais pas du tout, je suis pas maso. Par contre, dans le shibari, voilà, il y a une forme de douleur que j'accepte de traverser, que j'accepte de prendre, parce que je la transforme en quelque chose, mais je la transforme pas en du plaisir sexuel.
Ouais.
Je la transforme en un autre type de satisfaction qui me convient, qui me fait du bien. Voilà. Et puis, il y a aussi des gens qui sont hyper kinky et qui supportent pas la douleur, par exemple.
Ouais, complètement.
Ou qui supportent ni d'être dominés, ni d'être soumis, mais voilà. Et puis, il y en a, c'est que dans leur fantasme. Et peu importe, en fait. C'est juste qu'à un moment, il faut accepter que, oui, il y a tout un tas d'articulations entre la sexualité, la vie, les fantasmes, les hobbies, son rapport au corps, son... Et puis voilà, enfin, je veux dire, il y a des actrices porno qui sont dans la vie extrêmement inhibées sexuellement. C'est pas parce qu'elles ont fait de leur capacité à avoir des rapports sexuels avec des inconnus un métier que dans leur vie privée elles aiment ça. Et c'est un truc. Et oui, les clichés peuvent pas avoir leur place parce qu'effectivement il y a autant de manières de vivre toutes ces choses-là qu'il y a de personnes, en fait.
Ouais.
C'est très compliqué de faire des généralités, c'est hyper risqué tout le temps.
Pour revenir un peu sur toi et ton rapport au Shibari, tu m'as aussi indiqué en préparant donc cet épisode que tu as déjà proposé ce que tu as d'ailleurs tout à l'heure appelé une jam qui était dirigée sur le thème donc du Shibari et qui s'appelait Unsafe.
Oui.
Donc Unsafe, c'est un terme anglais qui en français se traduit par pas sûr, risqué,
voilà.
Etc.
Pas sécure.
Voilà. Oui. En quoi ça consiste déjà une jam et en quoi a consisté cette jam? D'où est-ce qu'est venue cette envie de réaliser ça?
Alors, en quoi ça consiste une jam? Dans le Shibari, la jam, on va dire que c'est un moment où des gens se réunissent pour pratiquer. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent tous les uns avec les autres, mais ça veut dire que globalement, on aménage un espace et un temps qui est propice à la pratique. Et du coup, on peut échanger aussi avec d'autres personnes. Parce que tout simplement, il y a des gens qui, pour pratiquer le Shibari, n'ont pas forcément d'espace chez eux pour se sentir à l'aise avec ça. Ou c'est des histoires de points de suspension auxquels on n'a pas accès. Bref, l'idée est en tout cas d'aménager un espace dans lequel les gens puissent venir pratiquer le Shibari. Voilà, on appelle ça une jam et c'est en hommage au jam de jazz où on invitait les musiciens à venir improviser de la musique toute la soirée.
D'accord.
Là, c'est un peu ça. Venez les pratiquants et on va improviser. On va improviser nos séances de cordes et c'est cool. Ce qu'on a proposé, alors je vais rendre à César ce qui est à César, hein, c'était une idée à la base donc de mon compagnon dont je parlais tout à l'heure, qui dans sa pratique, donc qui a quand même commencé très autodidacte, après il a pris quelques cours, mais il a quand même un chemin dans les cordes qui est très, très singulier et qui est très déconnecté de toutes les écoles, etc., et des structures. Mais il a été pas mal sollicité parce que les gens voulaient qu'il enseigne sa manière de faire des cordes. Ce qui nous paraissait à nous assez absurde en fait parce qu'il était autodidacte et que moi j'aimerais pas du tout j'aurais pas du tout aimé que mes profs au collège soient des gens qui n'étaient jamais allés à l'école, par exemple. C'est une idée qui me posait un petit peu problème personnellement, mais voilà, c'est peut-être parce que je suis quelqu'un de très scolaire des fois et peu comme ça, mais et puis que lui il disait mais moi je sais pas si j'ai quelque chose à enseigner parce qu'en fait c'est un truc d'instinct de... voilà, et ça l'a beaucoup questionné en fait, et on s'est beaucoup questionné et lui un jour m'a dit qu'est-ce que tu penses du fait qu'on propose une jam qui serait une jam dirigée, c'est-à-dire pour le coup pas un truc d'impro, pas un truc de venez en pratique et puis hasta la vista. Et puisque les gens veulent que je leur enseigne le truc et que sa pratique, elle est quand même très axée sur le fait qu'il prend des risques, ses modèles prennent des risques, tout le monde est au courant, il improvise, il fait beaucoup d'expériences dans les cordes, etc. Et que l'idée est vraiment que tout le monde soit très attentif à ce qui se passe, et voilà. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses du fait d'organiser une jam qui s'appellerait... En tout cas, l'idée, c'était d'avoir un événement qui s'appellerait Unsafe. Pourquoi Unsafe? C'était en réaction au fait que, globalement, dans l'organisation structurelle du Shibari en France, et certainement en Europe, mais bon, j'ai connu un peu l'Allemagne et la Belgique à une époque, mais voilà. Globalement, dans cette organisation structurelle, on invite les gens à venir dans les associations, dans les jams et tout, en leur disant « Ici, c'est un endroit safe, les personnes sont safe, on va vous apprendre à pratiquer de manière safe. » Safe est une espèce de leitmotiv pour dire aux gens « Il ne va rien se passer de grave. »
C'est hyper sécure, etc.
C'est ça, voilà, et genre, on a validé tous les gens, tout est super, etc. Et comme je le disais au début de notre entretien, je considère que c'est une pratique qui ne peut pas être safe. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, on peut prendre conscience des risques, on peut les limiter au maximum, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident. Même titre que quand bien même on va nous dire que c'est une voiture est la plus safe du monde, elle peut avoir un accident, de toute façon, c'est des choses, même le meilleur conducteur du monde, il y a des choses qui peuvent se produire. Et du coup, on s'est dit, ok, on propose un truc, un événement dans lequel on ne fait pas croire aux gens, en fait, que tout est safe. C'est-à-dire que les gens viennent, on leur dit bien que... Il n'y a pas une histoire d'être assuré, parce que dans les assos, on fait souvent prendre une adhésion aux gens en leur faisant croire qu'ils sont assurés. En fait, ils sont assurés si le matériel leur tombe sur la gueule, mais pas du tout s'ils blessent quelqu'un ou s'ils sont blessés. Donc à un moment, on dit « Ok, donc là, on va être très clair là-dessus. Si vous venez ici, si vous blessez ou si vous êtes blessé, vous ne serez pas assuré. c'est votre responsabilité. C'est comme quand vous allez au mariage de votre pote Dudule, que vous décidez complètement redbourré à 3h du mat de jongler avec des boules de pétanque. Quand bien même votre pote Dudule au mariage, il a pris une assurance pour la salle, il n'est pas assuré pour les grosses conneries que son pote vont faire, ses potes vont faire avec des boules de pétanque, en fait. Mm-hmm. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, le lieu est assuré, etc. Mais nous, on est très clair avec les gens. Donc si vous venez ici, on ne vous demande pas d'avoir une assurance. En tout cas, nous, on ne vous demande pas d'être adhérent au lieu. Donc c'est pour ça qu'on les organise en privé. On loue nous-mêmes un lieu et on invite des gens qu'on souhaite inviter. Mais en leur disant, n'oubliez pas, enfin, il n'y a pas d'histoire d'assurance. C'est comme si tu étais invité à boire un thé chez moi, en fait. Mmh. Je veux dire, si tu te casses la jambe dans mon escalier, ça ne va pas être indemnisable. Enfin, là, il ne fallait pas monter l'escalier ou le descendre. Voilà. Donc là, vous faites une pratique à risque, ayant toute conscience de ça. Le deuxième principe de cette jam dirigée, c'est de dire, ne venez pas avec un partenaire que vous ne connaissez pas. Mmh. C'est-à-dire que ne vous donnez pas rendez-vous, ne venez pas rencontrer un partenaire à cette jam, ne trouvez pas un partenaire sur les réseaux sociaux en disant « Hey, j'ai envie d'aller à la jam unsafe, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Non, vous venez avec quelqu'un que vous connaissez ou vous ne venez pas. Si votre partenaire de confiance, si un partenaire de confiance n'est pas disponible, tant pis, c'est pas grave, vous viendrez la prochaine fois. Il faut apprendre à ne pas pratiquer le shibari, même quand on en a très envie. Je me surprends de cohérence. Hein. Et le truc, c'est de dire « Ok, on va vous emmener, on va vous demander de faire des trucs. » En fait, c'est juste des jams à thème, en fait. C'est juste des jams à thème et on pose des contraintes aux gens en disant, voilà, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était juste un truc à trois cordes. C'est-à-dire qu'on commençait par un premier truc en disant, ok, là, pendant 20 minutes, vous faites une seule corde et il y en a pour eux, c'est la torture. Mais c'est ça, en fait, l'idée des gens qui viennent à cette jam, c'est de se confronter au... Plutôt que de se conforter dans la pratique qu'ils ont habituellement, c'est justement d'aller sur des terrains qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'explorer.
De repousser ses limites aussi, de travailler la frustration.
Et voilà, et puis pourquoi pas travailler sur la mise en difficulté du modèle, sur la mise en difficulté de la personne qui attache. Et donc voilà, c'est ça tout le principe en fait de cette jam, c'est de dire venez et n'oubliez pas que vous venez prendre des risques. Et que nous, on va être là pour nommer ces risques, pour les accompagner. Et après, le format jam, ça permet quand même d'être là les uns pour les autres si jamais il y avait un problème. Mais ayez tous conscience que là, on va jouer à faire du shibari expérimental, en fait. On va essayer des trucs. Ce n'est pas un cours où on va apprendre un pattern parfait avec le confort parfait qui fonctionne avec tel type de... Non. Vous allez venir, vous allez faire des expériences, vous allez essayer vos trucs. On va faire comme si vous ne savez rien faire en shibari. On va juste s'amuser avec des cordes et voir voilà, comment on oublie la technique, comment on oublie toutes ces choses qu'on apprend dans les cours. Et concentrez-vous sur la relation avec votre partenaire. Venez jouer, en fait. Venez jouer avec votre partenaire et venez explorer vos limites mutuelles, en fait. Et c'est en ça voilà, que ça s'appelle Unsafe. Et c'est tout le principe de cette jam qui, pour le moment, n'a eu lieu qu'une fois. Donc, j'en parle comme si c'était une institution. Ce n'est pas du tout. Elle n'a eu lieu qu'une fois.
Ça va peut-être le devenir.
En tout cas, ça pourrait être un truc culte. On dit ça hein, sur un truc qui a eu lieu qu'une fois et dont tout le monde parlerait. Ce serait culte. Non, pour le moment, ça a eu lieu une fois. Encore une fois, c'est pas un truc qu'on ouvre au public. On invite certaines personnes. Donc la première et dernière qu'on ait faite, c'était juste avant le confinement. On a plein d'idées de thématiques, de trucs rigolos à faire, de trucs un peu voilà. Il faut juste qu'on s'y remette. Je crois que là, on joue un peu de fainéantise, un peu comme tout le monde en sortie de. Enfin, on sait même pas si on est sorti de la Covid, mais en tout cas voilà. Là, voilà. Et puis, moi, je suis très occupée par ailleurs, mon compagnon aussi. Mais on le refera parce que
il y a des idées, il y a des envies.
Voilà. Et puis, qu'il y a des gens qui nous sollicitent encore.
D'accord.
Sur cette envie de, d'être poussé dans leur retranchement, en fait.
Et de partager ce moment. D'accord.
Dans une jam, en fait, l'idée, c'est que c'est de la pratique libre. Et là, l'idée, c'est de dire non, c'est pas libre, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites ce qu'on vous dit de faire.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a des consignes, il y a des choses qui sont ok, il y a des choses qui sont pas ok, et tout ce qu'on veut pas. Et on est très, on fait un peu les dictateurs. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec les dictateurs dans le shibari parce que je pense que ça, c'est un élément de sécurité en fait. C'est quand il y a quelqu'un qui peut dire toi tu dégages, toi tu restes, et qu'on n'est pas dans le ventre mou du truc quoi. Et c'est un peu ça aussi, c'est de dire non. Par contre. Si vous répondez pas à nos consignes, en fait, juste vous cassez. En fait, on va vous sortir du lieu.
Et puis, c'est intéressant, du coup, parce que ça vient placer une contrainte sur les personnes qui, d'habitude, sont les maîtres de la contrainte. Donc, ça vient pas inverser les rôles, mais ça vient ajouter une nouvelle dimension, en fait, à la pratique avec du coup quelque chose qui doit être assez inconfortable, en tout cas nouveau pour les personnes justement qui attachent. Ça doit être intéressant à vivre.
C'est ça, c'est ça. C'est de dire,
D'accord.
non, non, ah, t'as envie de suspendre? Ouais, sauf que là, c'est une jambe de semi-suspension, en fait. Donc, t'as pas le droit de lever ton modèle. T'as pas le droit. Il a pas le droit de décoller du sol.
D'accord.
Désolé pour toi. Désolé pour vous, d'ailleurs. Mais oui, il y a vraiment un truc comme ça, de dire, non, non, là, on dirige la pratique. On dirige vraiment la pratique. Et oui, ça va être inconfortable. Évidemment que ça va être inconfortable. Mais
pour
c'est ça
justement découvrir autre chose,
en
en fait.
Mais voilà, c'est là où vous allez, encore une fois, vous confronter à vos limites, les exploser, et puis vous rendre compte que, encore une fois, s'amuser dans la prise de risque, juste pour aussi réaliser que même quand vous êtes dans votre zone de confort, en fait, il y a du risque. Et voilà. Voilà, je voulais juste repréciser
ouais,
ça
ouais,
parce que c'est vrai que c'est une dimension importante de.
Tu fais bien.
C'est nous qui décidons de. Voilà, et de dire il y a cette thématique et on n'en sort pas en fait. Vous venez pas ici juste parce que c'est cool, vous avez 2 heures et que
oui,
ça
voilà.
tombe
et
bien.
Les personnes sont au courant avant de s'inscrire de la thématique et du cadre dans lequel ça sera organisé.
Exactement, exactement. Il y a un règlement intérieur qui est un peu strict.
Okay.
Et voilà, et tout le monde est d'accord avec ça avant de venir.
Et justement, on a déjà un peu évoqué la question des suspensions, des mousquetons, des cordes, etc. Est-ce qu'il y a justement du matériel, des accessoires qui sont indispensables à avoir lorsque l'on pratique le shibari?
Alors, ce qui est indispensable, c'est d'avoir au moins une corde. Voilà. Est-ce que j'ai envie de lancer le sujet de c'est quoi une vraie corde de shibari ou pas une vraie corde de shibari? Mais je dirais, on va dire que, alors c'est pas l'indispensable, mais classiquement on est sur de la fibre naturelle, c'est pas indispensable, il y a des gens qui préfèrent les fibres synthétiques, voilà. Mais globalement il faut au moins une corde pour pouvoir faire du shibari. Et puis le deuxième fondamental, qui est fondamental dans le sens où il faut l'avoir pour ne jamais s'en servir, c'est de quoi couper cette corde sans blesser la personne qu'on attache. Parce que évidemment l'idéal c'est quand même de toujours de pouvoir retirer les cordes sans avoir à couper, puisqu'on fait jamais vraiment de nœuds, hein, il y a juste un nœud en général sur un départ sur le single column tie, mais même là-dessus on peut avoir ce qu'on appelle des quick release, c'est-à-dire un dispositif qui permet juste en tirant sur un morceau de corde de défaire le nœud d'un coup d'un seul. Et voilà, mais voilà, il faut toujours avoir un outil qui permet de couper la corde sans blesser le modèle, justement pour n'avoir à jamais s'en servir, mais
d'accord.
C'est un outil de rassurance.
C'est
ouais. juste, c'est un outil qui doit être un outil de rassurance. Après, il arrive que dans des situations, il y a certaines situations où les gens ont dû parfois couper des cordes. C'est plus en général s'il y a un malaise de la personne attachée et qu'on a besoin de détacher en urgence ou de faire descendre, par exemple, sur une suspension, on a besoin de dire, ok, on descend, on n'a pas le temps de défaire toutes les lignes, on veut juste mettre la personne au sol, on coupe les lignes et basta.
D'accord.
Mais vu le prix d'une corde de shibari, je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens qui n'aiment pas couper leur corde. Ils n'aiment pas.
Et justement, pour en revenir à ce que tu disais sur les cordes, plutôt synthétiques ou naturelles, etc., parce que c'est vrai que du coup, on s'imagine, en tout cas moi, dans mon esprit, je me dis qu'effectivement, il y a peut-être des matières qui seront plus ou moins agréables, voire peut-être qui pourraient être irritantes au contact de la peau.
En fait, c'est aussi un peu ça le choix des matières. C'est-à-dire que typiquement, une corde en nylon, c'est pas le contact qui va brûler, c'est les passages, par exemple. C'est le frottement à un moment. Ça, par exemple, le nylon va plus brûler. Alors, elle va pas forcément être au toucher plus rêche qu'une corde en jute ou en chanvre, par exemple. Elle va être même plus douce. Mais elle peut occasionner plus de brûlures selon la manière dont elle est utilisée. Après, il y a des gens, c'est leur kiff, hein, les brûlures dans les
oui,
cordes.
Oui, complètement.
Donc pourquoi pas voilà. Je dirais que dans le shibari, quand même, globalement, les gens utilisent plutôt chanvre ou jute, et pour grande majorité c'est plutôt je sais jamais si je dois dire du jute ou de la jute, alors donc je vais juste dire, alors ils utilisent jute, et c'est terrible, hein, cette ignorance.
Non mais écoute, c'était bien envoyé.
Voilà, la plupart des attacheurs sont plus à l'aise avec les cordes de jute, qui sont souvent traitées, hein. C'est pas des cordes brutes, en général elles sont frottées, graissées, brûlées, de manière à être un peu adoucies. Il y a des gens qui aiment beaucoup les cordes très brutes, Je fais partie des gens hein, qui aiment bien les cordes un petit peu brutes. Bien. Moi, j'aime bien mettre des pulls qui grattent. Alors, les cordes qui grattent, ça m'éclate aussi. Il y a des gens qui vont adorer le chanvre parce que le chanvre, c'est une odeur très particulière. Mm-hmm. Et du coup, on est encore sur une autre dimension. Il y a des gens qui trouvent que le chanvre, ça sent les écuries et c'est insupportable.
D'accord.
Et puis, il y en a qui adorent. Moi, mm-hmm. je fais partie des gens qui adorent le chanvre mm-hmm. parce que ça sent les écuries, c'est cool. Mais ça, en fait, encore une fois, ça dépend de comment on est à l'aise avec l'outil.
Ouais.
Et puis, il y a aussi un truc de, il y a des cordes qui vont se tendre et se détendre plus, enfin voilà, il y a des nœuds qui vont des fois être plus difficiles à enlever avec des cordes en nylon, par exemple, parce que ça dépend de la force de friction. Alors, moi, je suis pas une grande technicienne hein, de la corde, mais globalement, voilà, je sais qu'il y a des outils qui vont avoir l'air confortables, et puis en fait, ben, la moindre friction, elle va être impossible à défaire après, parce que la corde, c'est pour ça que c'est souvent les fibres naturelles qui sont conseillées. Et oui, on va dire que le très grand classique, de toute façon, c'est la corde de jute.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Mais ouais, il y a plein d'autres trucs, si on veut. Quoi.
On va pas tarder à conclure cet épisode. Et donc, je voudrais savoir si tu aurais peut-être un conseil ou des conseils pour les personnes qui aimeraient découvrir, essayer le shibari.
Ah là là, j'ai 2 semaines de conseils à vous donner, mais on n'a pas assez de temps. Ça revient à tout ce que j'expliquais quand on parlait des risques. Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est observer. Observer beaucoup ce qui se fait. Bon, effectivement, aller voir sur Internet ce qui se passe. Il y a des photos, il y a des vidéos. Ça permet quand même de voir toute la diversité de cette pratique-là. Encore une fois, il y en a pour qui ça va être quelque chose de très sportif, d'autres pour qui ça va être très sexuel, d'autres pour qui ça va être très SM, etc. Allez voir tout ce qui se fait, projetez-vous dans ces trucs-là, regardez un peu, voilà, imaginez-vous dans ces situations, questionnez-vous, mais vraiment, vous vous lancez pas sur un coup de tête, en fait, n'hésitez pas à fantasmer cette pratique avant de vous lancer dedans aussi. Justement pour savoir exactement à quel endroit vous avez envie de vous situer ou sur quel spectre vous avez envie de faire des expériences sans forcément aller sur un endroit précis. Ça pour moi c'est le truc vraiment fondamental. Le deuxième vrai conseil que je pourrais donner c'est pratiquer avec des gens en qui vous avez confiance. Ne vous lancez pas dans cette pratique si vous n'avez pas de partenaire. Alors ça, c'est peut-être mon truc un peu d'ayatollah. Et peut-être c'est le moment où je vais me faire des ennemis. Mais je trouve toujours ça assez dangereux de voir qu'il y a des gens qui disent « Ah, je voudrais apprendre le shibari, mais j'ai pas de partenaire. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi ?» Et pour le coup, moi, je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et je vois pas comment on peut avoir envie d'aller vers une pratique relationnelle quand on n'a pas de relation à mettre dedans, en fait. Ou alors, ça devient un outil pour chasser de la relation. Et ça me paraît pas très, très sain, cette histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai une petite réserve, quand même, sur ce truc. Donc, j'ai envie de dire, si cette pratique vous fait envie, attendez d'abord, en fait, de rencontrer un partenaire qui va partager cette envie avec vous. Et voilà, alors... Mais ne faites pas un appel à... Enfin, voilà, moi, les appels à partenaires, quand on pratique pas, quand on est... Pour moi, c'est toujours un truc très, très malaisant que je... Voilà, je trouve ça pas très simple.
Parce que tu le dis, il y a une question de confiance qui pourrait être... qui peut être importante pour, effectivement, faciliter la connexion, le partage entre les personnes, il y a un rapport intime, on parlait de sensualité, etc. C'est pas anodin comme pratique. Ça facilite aussi la communication, et on l'a dit, qui est crucial à différents niveaux, que ce soit avant, pendant et après la séance. Et aussi, le côté confiance, ça vient aussi avoir confiance dans les capacités et les compétences de la personne. Est-ce que la personne, elle sait vraiment comment fonctionne le corps humain, elle sait vraiment où il ne faut pas qu'elle mette de corde, où est-ce qu'il faut pas qu'elle fasse de pression, etc., etc.
Alors ça, pour le coup, si on est face à quelqu'un de très débutant, en termes de risque physique dans les initiations, c'est toujours plutôt bien amené.
D'accord.
Encore une fois, les risques psychologiques sont toujours beaucoup moins évoqués, ou alors on dit... « Oh là là, c'est impactant émotionnellement, faites attention. » Et pouf, on parle d'autre chose, mais on n'explique pas quand même les vrais risques. Par contre, sur les risques physiques, je pense qu'on est à un moment, et depuis un petit moment, où effectivement, Il y a peu de gens qui vont rentrer dans cette pratique à qui on ne va pas expliquer précisément les risques physiques et du coup, quels sont les endroits délicats, comment on les trouve, comment on teste pendant une séance ces choses-là. Ça, pour le coup, c'est, je pense qu'on peut dire que c'est tout, la plupart des gens sont vraiment très sensibilisés à ça.
Ok, d'accord.
Voilà, et c'est... Et c'est très bien parce que bon, voilà, on a tous envie de garder notre intégrité physique, hein, comme on disait. Mais effectivement, de se lancer dans un truc qui nous fait envie, alors que, encore une fois, c'est un truc très relationnel, très à deux. Attendez de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez partager l'enthousiasme de la découverte. Et puis des fois, ça peut être un pote. Hein, voilà, même si. Enfin, j'en sais rien, même si vous êtes un mec cis hétéro qui a hyper envie de vous y mettre et que vous n'avez vraiment pas l'intention de faire du shibari votre outil de prédation de jeunes petites meufs qui vous plaisent bien, je sais pas, si peut-être vous avez un pote avec qui vous délirez assez et qui et avec qui vous avez déjà dormi parce que en fin de cuite, enfin voilà, avec qui la proximité physique est pas exactement un problème et qui aurait envie de se prêter au jeu. Enfin voilà, en tout cas, je dis pas qu'il faut absolument avoir une relation sensuelle avec la personne, mais en tout cas une relation de confiance. Et voilà, puis peut-être après vous trouverez un autre partenaire avec qui vous pourrez pratiquer sur un autre mode, mais en tout cas, faites voilà, ne vous lancez pas si vous n'avez pas de partenaire et prenez le temps de trouver quelqu'un avec qui vous avez partagé vraiment ça. Et ne soyez pas deux personnes avides. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est voilà, je pense comme les premières personnes qui vont avoir absolument envie de prendre leur première dose de coke, elles vont acheter le premier truc synthétique dégueulasse qui passe. Et voilà, c'est pas
mal. D'accord. Et effectivement, je trouve, en fait, ce que tu es en train de dire me fait penser au fait qu'effectivement, observer, découvrir, tâtonner, pour certaines personnes ça sera pas forcément la partie la plus intéressante parce que bah on a une idée, on a fantasmé sur cette pratique et on a envie justement de passer à l'action, en fait on a envie de vivre ce qu'on nous décrit là, ce que les personnes sont en train d'entendre, on a envie de pratiquer. Et je pense qu'il est important de se dire, justement, pour gérer un peu cette frustration, développer notre patience, c'est de se dire qu'en fait, le temps qu'on prend maintenant, c'est peut-être des risques qu'on évitera, certains risques, on l'a dit, on ne peut pas éviter tous les risques, mais en tout cas, certains risques qu'on évitera et du temps qu'on gagnera, en fait, de plein de manières différentes, parce que on sera avec un ou une partenaire qu'on connaît, avec qui on a confiance, avec qui du coup sera peut-être plus fluide de pratiquer. On n'aura pas besoin de faire connaissance avec la personne, de revoir tout un tas de choses qui auront déjà été établies. Dans tous les cas, même avec une personne de confiance, c'est pas parce que c'est une personne qu'on connaît déjà qu'il faut pas établir quelles sont tes envies, quelles sont tes limites à chaque nouvelle séance, bien sûr. Mais c'est des choses qui, forcément, comme on connaît la personne, comme il y a un rapport déjà beaucoup plus proche, c'est plus facile d'être... de communiquer ces choses, d'exprimer ces choses sans pudeur, entre guillemets.
C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est... Voilà, c'est important. Moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut pratiquer, c'est ça. C'est de mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien, en fait, tout simplement. Et aussi parce que attendre... Et observer, et tâtonner, et même des fois en mettant les pieds dans une association, de dire, commencez par, même si vous assistez, vous venez à une jam, et que vous n'avez jamais pratiqué, et qu'on vient directement vous proposer de vous attacher, dites non, regardez les gens pratiquer, regardez comment ça se passe, regardez les possibles, regardez les modes de jeu, et projetez-vous ou pas, ou dites-vous, non, mais moi ça ne se passerait pas comme ça, en fait. Mais en tout cas, voilà... Juste mettez toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien, et pour ça n'hésitez pas effectivement juste à être patient, à pas être dans un truc d'avidité, de voilà, parce que c'est, encore une fois, c'est là où vous pourriez passer
à côté
de risques.
Voilà,
c'est ça, brûler les étapes, je pense que c'est pas productif par rapport à cette pratique là vraiment. Et par ailleurs, le fait d'attendre, de s'imposer, de patienter, je pense que ça peut vraiment donner un plaisir beaucoup plus grand, une satisfaction beaucoup plus grande, en fait, à la fin.
Vraiment. D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu aurais, du coup, des recommandations, peut-être, de livres? Tu as évoqué aussi des sites internet, des vidéos, etc. Voilà, des recommandations pour qu'on puisse poursuivre, approfondir cette exploration du shibari.
je me sens pas très légitime à donner ce type de conseil. Je sais qu'il y a des... on va dire qu'il y a des... c'est pas facile de répondre. Bon, désolé les copains. J'ai pas envie de recommander la moindre association, non pas parce que je pense que les associations sont toutes mauvaises, mais c'est que, en fait, ce serait beaucoup trop subjectif, et voilà. Et que, très sincèrement, et de manière très égoïste, je connais aucune association qui va défendre les principes dont je viens de te parler pendant une heure et demie ou deux heures. Par contre, il y en a beaucoup qui existent, et elles sont pleines de gens bien. Et il y en a dans un paquet de villes. Voilà, sur internet, si vous tapez Shibari, des ressources, il y en a plein, des bouquins, il y en a plein, il y en a des très bien faits, il y en a des moins bien faits, des sites internet qui permettent d'apprendre, il y en a aussi, il y en a des très bien faits, il y en a des moins bien faits. Mais en fait, là, le seul conseil que je vais vraiment donner, et c'est vraiment parce que je tiens à être cohérente avec tout le reste, où je disais surtout, écoutez-vous, faites-vous confiance, c'est une histoire d'intuition, de faire confiance à quelqu'un. Faites la même chose avec tous ces supports. Voyez-vous, est-ce que vous avez envie de quelqu'un qui vous explique en direct, ou est-ce que vous avez envie d'abord tester les choses vous-même pour ensuite... voyez ce qui existe, voyez ce vers quoi vous mène votre intuition, voyez quelles sont les personnes qui vous mettent à l'aise, quels sont les lieux qui vous mettent à l'aise, quels sont les sites qui vous semblent assez bien faits, qui vous parlent, est-ce qu'il y a un bouquin qui vous intéresse. Voilà, moi, après, il y a des très beaux livres. Alors, pour le coup, en livre, j'aurais envie d'en conseiller quelques-uns, parce qu'il y a des très beaux livres de photos, mais comme je suis complètement nulle en titre et en machin, j'ai aucune idée de...
C'est pas grave.
De, voilà, et il faudrait juste que... Mais mon compagnon, il a plein d'incroyables bouquins de photos de Shibari qui sont vraiment des trucs très, 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 très chouettes.
Tu pourras m'envoyer, si tu veux, les recommandations, enfin,
pourquoi pas
les ouvrages,
oui,
ou autres que tu aimerais me recommander.
On mettra,
et je vous les mettrai dans la description de l'épisode pour que vous alliez y jeter un coup d'œil si vous en avez envie.
Exactement. Mais voilà, j'ai envie de dire, suivez votre intuition et modérez vos ardeurs. C'est vraiment le plus grand conseil que je puisse vous donner pour pouvoir pratiquer très sereinement. Et je ne doute pas que vous rencontrerez tout un tas de gens bien, parce qu'il y en a vraiment plein, et que vous serez de toute façon, je crois, bien accueillis dans n'importe quelle association.
Pour vivre justement une belle pratique,
ouais,
une belle expérience.
Oui, ouais, complètement. Mais encore une fois, ne vous reposez pas que sur le savoir des sachants. Écoutez-vous, posez-vous des questions à vous-même. C'est-à-dire que ce ne sont pas les autres qui vont avoir les réponses. Vous avez beaucoup de vos réponses. Et ce que vous avez à gagner des autres, ce n'est pas le savoir, c'est juste l'échange. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie de cet épisode. Encore un grand merci à Niouli pour avoir participé au podcast et d'avoir partagé son expérience très riche avec nous. Si vous souhaitez découvrir le travail de Niouli, vous pouvez vous rendre sur son compte Instagram, @Niouli, N-I-Y-O-U-L-I, -lacustre, L-A-C-U-S-T-R-E. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un vocal, un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Fétichissement vôtre, un homme curieux.